SBS Radio.
Et tout d'abord, les grands titres de ce dimanche. Le secrétaire général des Nations Unies présente son message de nouvel an et un mot spécial sur la menace du changement climatique. Nouvelle journée de manifestation des Gilets jaunes en France. Il y a eu moins de monde. En République démocratique du Congo, on vote ce dimanche aux élections présidentielles et aux élections législatives. Dans son message annuel du Nouvel An, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a averti que les menaces du changement climatique, l'intolérance et les divisions géopolitiques étaient en augmentation. Antonio Guterres a également salué les avancées positives, notamment les accords sur les migrations et les réfugiés, ainsi que les efforts diplomatiques déployés dans les zones de conflit. Selon lui, la coopération mondiale reste le meilleur espoir pour lutter contre les problèmes du monde.
When international cooperation works, the world wins. In 2019, the United Nations will continue to bring people together, to build bridges and create space for solutions. We will keep up the pressure and we will never give up. As we begin this new year, let's resolve to confront threats, defend human dignity and build a better future together.
En France, acte 7 de la journée de mobilisation des Gilets jaunes. Hier samedi, il y avait moins de manifestants sur les Champs-Élysées et les manifestants se sont retrouvés au sud de la capitale plutôt pour cibler certaines chaînes de télévision. Explication de Simon Rosé pour Radio France Internationale.
Un point de rendez-vous donné à la dernière minute pour tromper les forces de l'ordre et c'est finalement devant les locaux de la télévision BFM que se sont réunis un millier de gilets jaunes. Une manifestation pour une fois déclarée en préfecture qui devait faire le tour des médias nationaux implantés à Paris pour dénoncer une couverture du mouvement jugée partiale. Devait faire le tour car elle a tourné court devant les locaux de France Télévisions où les forces de l'ordre ont bloqué la progression. S'en est suivi un face-à-face d'une heure dans le calme avant que le cordon de gendarmes mobiles ne soit brisé et qu'une manifestation sauvage ne parte dans les rues du 15e arrondissement, se désagrégeant au gré des charges policières en queue de cortège. En fin d'après-midi, quelques groupes de gilets jaunes se sont rendus sur les Champs-Élysées, où la circulation n'a pas été interrompue. Peu d'incidents donc à Paris comme dans le reste du pays, de nombreux autres rassemblements ont eu lieu dans d'autres villes. Marseille, Rouen, Toulouse, Nice, Nantes, et c'est une nouvelle fois Bordeaux qui a réuni le plus de monde, 2400 personnes selon la préfecture, une manifestation un peu plus agité puisque quelques incidents ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre.
L'affaire dite des passeports diplomatiques d'Alexandre Benalla, les passeports qu'il a utilisés pour aller au Tchad et en Israël, et il n'avait pas le droit d'utiliser ces documents. La justice a ouvert une enquête hier. Explication à nouveau de Simon Rosé pour RFI.
Il était déjà au cœur de plusieurs enquêtes concernant des violences commises le 1er mai alors qu'il était en poste à l'Élysée. Alexandre Benalla intéresse donc une nouvelle fois la justice. Une enquête préliminaire a été ouverte à son encontre, notamment pour abus de confiance dans l'affaire des passeports diplomatiques. Il en possédait deux qu'il aurait dû rendre après son licenciement du cabinet d'Emmanuel Macron. Il n'en a visiblement rien été puisque selon nos confrères de Mediapart, il s'en est servi pour plusieurs voyages d'affaires en Afrique et en Israël. Depuis ces révélations, ce jeudi, difficile d'y voir clair. Alexandre Benalla certifie qu'il les a rendus, mais qu'on lui a redonné ses passeports en octobre, affirmant au passage qu'il a conservé des liens avec des membres de la présidence. Du côté du gouvernement, c'est une toute autre histoire. Le Quai d'Orsay a ainsi fait savoir qu'il avait réclamé à deux reprises ses documents à Alexandre Benalla, sans réponse de sa part. C'est d'ailleurs à la suite d'une saisine du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, que cette nouvelle enquête démarre. Elle a été confiée à la brigade de répression de délinquants. À la personne.
En République démocratique du Congo, avec les élections de ce dimanche, les discussions sur un acte d'engagement pacifique entre le pouvoir et deux principales parties de l'opposition n'ont pas abouti hier. C'est la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe, qui l'avait proposé pour prévenir les violences avant les élections de ce dimanche. Reportage Florence Maurice pour RFI.
L'opposition avait posé plusieurs conditions à la signature du pacte d'engagement soumis par la SADC. Première de ces conditions, que ce pacte ne concerne pas que les candidats, mais que la CENI s'engage elle aussi à travers ce texte sur un certain nombre de points, de nature, selon l'opposition, à garantir la crédibilité du scrutin. Qu'elle promette par écrit, par exemple, que tous les bureaux de vote seraient correctement déployés à temps ce dimanche, que seuls les résultats du comptage manuel des voix feraient foi et que ces résultats seraient affichés à la sortie des bureaux de vote, que tous les témoins des partis politiques également recevraient leurs accréditations et seraient autorisés à surveiller l'acheminement des procès-verbaux jusqu'au centre de compilation. À en croire l'opposition, la CENI s'y était engagée verbalement vendredi et la SADC avait promis d'amender le texte jusqu'à ce rétropédalage ce samedi. Pourquoi ce changement radical, s'interrogeait hier soir Martin Fayoulou. La SADC a-t-elle reçu des menaces et l'opposant d'en conclure, je cite, que la CENI cache des choses et ne veut pas être prise en flagrant délit car elle sait selon lui qu'elle ne pourra pas organiser des élections crédible, apaisé et donner des résultats conformes à la vérité des urnes. Fin de citation. C'est de la diplomatie. La SADC a été freinée dans son élan, a réagi de son côté Vital Kamerhe, directeur de campagne de Félix Tshisekedi. Il demande en conséquence à ses partisans de redoubler de vigilance ce dimanche et promet, je cite, que le peuple aura le dernier mot.
Les forces de sécurité égyptiennes ont effectué plusieurs raids et tué 40 terroristes au lendemain de l'attaque aux abords des pyramides de Gizeh. Je rappelle qu'une bombe artisanale a explosé au passage d'un bus de touristes. 3 ressortissants vietnamiens et leur guide égyptien ont été tués et 12 autres personnes blessées. Alexandre Bouchanti pour RFI.
Le communiqué du ministère de l'Intérieur laisse entendre que c'est l'attentat de vendredi contre les touristes vietnamiens qui a accéléré les opérations. Utilisant les informations dont il disposait sur plusieurs groupes de terroristes préparant des opérations contre des touristes, des militaires, des policiers et des églises, les forces de l'ordre ont lancé 3 opérations simultanées. 2 à Gizeh, à quelques dizaines de kilomètres du lieu de l'attentat contre les touristes vietnamiens. 30 hommes armés de Kalachnikov ont été tués selon le ministère de l'Intérieur qui publie des photos de cadavres armés de fusils d'assaut. Opération similaire dans le nord du Sinaï avec 10 terroristes tués. Selon des analystes, il s'agit d'opérations préventives mais aussi sans doute vindicatives contre des groupes extrémistes musulmans déjà surveillés par la police.
La ministre de l'immigration en Grande-Bretagne, Caroline Noakes, a déclaré que la ministre de l'Intérieur du pays revenait de ses vacances en famille pour gérer la dernière crise migratoire. Plus de 50 migrants ont été trouvés en train de traverser la Manche en bateau ces derniers jours. Madame Noakes a déclaré que le gouvernement envisageait d'envoyer des patrouilleurs supplémentaires pour surveiller les bateaux clandestins. Le déploiement de plus de navires pourrait potentiellement avoir un effet dissuasif ou encourager plus de personnes à tenter de traverser la Manche, selon elle.
It's feasible that were we to put additional craft, they might act as a magnet, encouraging people to make a perilous crossing. What we want to make sure is that we continue to work with the French so that people are prevented from leaving beaches in northern France, to make sure that we are providing joint operations, both in terms of intelligence and policing, and indeed when people are out on the water, making sure that we assist the French response where that's appropriate, or they help us where that might be the better course of action.
Et puis le Brexit, le gouvernement britannique investit beaucoup d'argent pour affréter des ferries supplémentaires entre la Grande-Bretagne et la France pour prévoir les conséquences de ce Brexit et garantir le trafic maritime. Explication de Béatrice Leveillé pour RFI.
Les entreprises britanniques sont loin d'être prêtes pour une sortie brutale de l'Union européenne qui provoquerait entre autres des ruptures de stock. Le rétablissement des contrôles douaniers pourrait considérablement ralentir le trafic des 16 000 camions qui transitent quotidiennement entre Douvres et Calais. Le gouvernement britannique, qui tente d'anticiper de monstrueux embouteillages, a passé des contrats avec 3 entreprises pour augmenter le nombre de liaisons maritimes entre les ports sud de l'Angleterre et le continent. 3 contrats ont été signés avec la société française Brittany Ferries, la Danone DFDS et la britannique Seabourn Freight. Les 3 marchés ont été attribués sans appel d'offres, ce que le ministère des Transports a justifié en parlant d'une situation d'extrême urgence. Pour Vince Cable, chef de file du Parti libéral-démocrate, farouche opposant au Brexit, c'est une pure folie. Au lieu d'empêcher une sortie sans accord, le gouvernement dépense des millions pour des contrats de dernière minute.
En Australie, selon la police, un homme est décédé et deux personnes sont à l'hôpital après s'être droguées lors d'un festival de musique sur la Central Coast de la Nouvelle-Galles du Sud. Un homme de 22 ans du Queensland a été emmené à l'hôpital de Gosford hier soir, mais est décédé peu de temps après. Un homme et une femme restent à l'hôpital dans un état stable après avoir ingéré une substance inconnue au festival de musique Lost Paradise. Un professeur fait appel au gouvernement à instaurer des tests de pilules afin de réduire le nombre de décès dus à la drogue dans ces festivals. Alison Hutton, professeur à l'université de Newcastle, a déclaré à Radio SBS News que des stratégies sont nécessaires.
Education and harm minimization strategies, such as pill testing, should be considered as a means to reduce the most risky behavior of illicit drug use at large festivals. We need to be talking about it instead of driving discussions about illicit drug use underground. Harm minimization strategies can create an avenue to start a conversation with young people about what they're taking and why.
4 mois après avoir perdu le putsch contre Malcolm Turnbull, qu'il avait provoqué, Peter Dutton a rompu son silence en critiquant l'ancien Premier ministre Malcolm Turnbull, appelant le Premier ministre déchu, méchant et indécis. Le ministre de l'Intérieur a déclaré au journal Sunday Mail de Brisbane que Malcolm Turnbull avait provoqué sa propre perte par manque de savoir politique. Peter Dutton a déclaré que Malcolm Turnbull avait pour projet de devenir Premier ministre, mais n'avait aucun projet en tant que Premier ministre. Lord Smith, le plus grand hôpital pour animaux à but non lucratif, affirme que les propriétaires d'animaux doivent faire preuve de vigilance pour la veille du nouvel an pour empêcher des blessures évitables lorsque les chiens tentent de s'échapper des feux d'artifice. Selon l'hôpital Lord Smith, l'année dernière, des vétérinaires ont soigné des chiens blessés par des voitures ou gravement blessés par des obstacles. Le docteur Tristan Rich, vétérinaire de Lord Smith, explique qu'une bonne planification peut aider les animaux domestiques à rester calmes.
I think it's really important that pet owners that do have dogs that they know have firework phobias are well prepared, either by setting up a nice safe environment at home for them or ideally staying with them if they can. If they are leaving their pets at home, make sure that the property is really secure. Consider blocking out windows so they can't see the fireworks. Make sure there are no escape routes.
Une dépression tropicale s'est formée au large du Cap York dans le Queensland, ce qui a déclenché un avertissement concernant les vents destructeurs et les fortes pluies avec un cyclone à venir dans les prochains jours. Jonathan Howe du bureau de la météo a déclaré à la chaîne 7 que la dépression tropicale vient de se former au nord du Cap Melville.
There are severe weather warnings for heavy rain, and unfortunately this is just a sign of things to come for the tropical North Queensland coast, with a moderate chance of that developing into a cyclone today. But that increases to high tomorrow as it shifts into the Gulf of Carpentaria and is likely to form into a tropical cyclone from tomorrow.
Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie. Perth maximale de 28 degrés, Adélaïde 29, Melbourne 23, Hobart 22, Canberra 35, Sydney 32, Brisbane 31, Cairns 30, Darwin 33 et à Alice Springs maximale de 42 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche, le secrétaire général des Nations Unies présente son message de nouvel an avec un mot spécial sur la menace du changement climatique. Et puis, une nouvelle journée de manifestation des Gilets jaunes en France, il y avait moins de monde. Fin du journal, restez avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.